Europe 1.
Article 49, alinéa 3 de la Constitution.
On est méchant avec les méchants.
Jordan Bardella est élu président de l'Assemblée nationale.
On est gentil avec les gentils.
J'engage la responsabilité de mon gouvernement.
Ce qui met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre.
La semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Ce soir à table de la semaine politique, Lomic Guillot, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef du JDD Magazine, bonsoir à Louis de Raguenel.
Bonsoir Pierre.
Chef du service politique d'Europe 1 et François de Labarre, grand reporter bonsoir. À Paris Match.
Bonsoir Pierre.
François, je suis très content de vous voir.
Merci.
Très content de vous revoir. Vous rentrez tout juste d'un reportage en Centrafrique où les choses ont pas bien tourné, elles auraient pu tourner encore plus mal. Vous êtes retrouvé nez à nez avec celui qui se prénomme, il parle à la troisième personne, le général Salé et son régiment, on va dire, improvisé, avant d'être retenu pendant 5 jours, parfois même séquestré. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bien, il s'est passé qu'au départ, on voulait faire un sujet qui est un sujet dingue, qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire partir dans les zones rebelles de Centrafrique pour enquêter sur les exactions du groupe Wagner et comprendre comment est-ce que les mercenaires russes occupent le terrain en Centrafrique, en particulier dans ces zones qui sont les zones les plus reculées et les plus difficiles d'accès et les plus difficiles à dominer parce qu'elles sont dominées par des groupes rebelles. On était censé rester 2 jours sur place, c'était la consigne qu'on s'était donnée au départ parce que c'est dangereux pour des journalistes français d'aller là-bas. Le risque, c'est d'être repéré par des Russes et par les mercenaires du groupe Wagner qui auront les moyens et certainement la volonté de nous pourchasser dès lors qu'ils savent que des journalistes français sont sur place en train d'enquêter sur leurs exactions. Donc tout s'est plutôt bien passé dans la mesure du possible pendant ces 2 journées d'enquête et jusqu'au soir, la veille de notre départ, où le général Salé, qui était responsable des groupes rebelles dans cette zone où nous étions, est venu nous voir et là ça s'est très mal passé. Il nous a traités de traîtres, il nous a insultés, il nous a menacé. Et puis,
en fait, il avait compris autre chose. Il a compris autre chose de votre présence sur place, non ?
Il s'était mis en tête cette idée que si des journalistes français venaient le voir, c'est parce que la France venait le voir et parce que la France allait soutenir les rebelles de Centrafrique, ce qui n'était pas le cas, puisque ce sont des journalistes qui sont venus le voir, des journalistes français, mais d'abord des journalistes. Et donc, quand il a compris qu'on était là pour faire un reportage et qu'on n'était pas là pour soutenir sa guérilla, du moins c'est l'interprétation que nous on en a fait après, il a très mal pris et il s'est demandé comment est-ce qu'il allait pouvoir utiliser ces 2 journalistes et finalement l'idée lui a traversé l'esprit sans doute de nous revendre et de gagner de l'argent ou de quelques calculs qu'on...
Mais vous revendre à qui ?
Alors, la possibilité, il ne nous aurait pas vendu directement au groupe Wagner, il nous aurait vendu peut-être à d'autres. Et ce qui est sûr, c'est qu'il aurait fait appel à des intermédiaires. Et dans cette zone, ceux qui jouent ce rôle sont des milices soudanaises du Darfour, qu'on appelle les Janjaweed, et qui mènent des razzias régulières contre ces rebelles. Et eux auraient pu jouer le rôle d'intermédiaire, donc il est très possible qu'il ait eu l'idée de nous revendre à ces milices. On ne sait pas, parce que heureusement, il n'a pas pu mener son projet à bien. D'autres, la plupart des gens, même tous les gens qui étaient autour de lui, nous défendaient. Et
ils en avaient marre de lui.
Ils n'osaient pas le dire, mais sans doute ils en avaient marre de lui. Donc il y avait des tensions entre les groupes et ce général qui plus est un des petits-fils de Bokassa, ce qui explique.
Ça s'est vérifié ça ou il le dit comme ça
Lui le dit, les autres le disent.
Comme Louis Dragnel.
Apparemment c'est une personnalité qui est assez connue en Centrafrique. Son père est un diamantaire de Bria. Apparemment c'est. Alors nous on n'a pas été vérifier ça dans l'arbre généalogique. Ouais. Mais en tout cas
Très haute opinion de lui-même. Visiblement, c'est pas le cas. Enfin, des autres qui sont avec lui. Quand on lit votre reportage hein, dans Match, les pirates de la Brousse contre Wagner. Et alors, c'est très intéressant cette façon. C'est presque romanesque. Enfin, c'est digne, franchement, d'un film en tout cas. Il vous laisse pratiquement pas parler. Comment est-ce qu'il a pas deviné tout de suite que vous étiez des journalistes. D'ailleurs, vous arrivez. C'est écrit dans votre reportage. Ouais. Vous arrivez. Les gamins fuient. Et en fait, on vous prend pour des Russes parce que les Wagner sont passés juste avant, ils ont buté tout le monde.
Voilà, ça c'est ce qui s'est passé dans la mine d'or, parce qu'il y a une mine d'or à côté de la ville où on était, et la mine d'or a subi des exactions au mois de mars, et les Russes, les mercenaires russes, puisqu'ils ne sont pas tous russes, d'ailleurs il y a beaucoup de Tchétchènes et des Syriens et d'autres nationalités, les mercenaires russes sont venus et ont tiré dans la foule. C'est ce qui nous a été raconté par tous les gens qui étaient présents. Donc ils ont tiré sur les orpailleurs qui sont souvent des jeunes.
Y compris les gamins.
Ouais, les gamins, c'est la plupart sont des gamins, parce qu'en fait c'est des mines qui n'ont pas d'exploitation réelle, c'est exploité par des gens qui essayent de trouver de l'or, et c'est souvent d'ailleurs des Soudanais et des Tchadiens puisqu'ils s'y connaissent mieux que des Centrafricains, et donc eux sont là pour essayer d'exploiter l'or, et puis chacun essaye de tirer son petit profit et puis de le revendre derrière. Ils n'ont rien à voir avec la rébellion. La seule chose qui a à voir avec la rébellion, c'est que ils sont censés donner un pourcentage de ce qu'ils exploitent à la rébellion, mais ce pourcentage est pas très important. De toute façon, ces rebelles ne sont pas riches du tout. C'est pour ça que d'ailleurs que ça s'est si mal passé, c'est parce qu'ils sont tellement aux abois qu'ils en sont venus à essayer de nous séquestrer pour faire commerce de notre personne.
François Delabarre, au moment où vous voyez que ça change dans l'esprit du général Salé, vous vous attendez à quoi ?
On est très pessimiste parce qu'en fait il nous a pris toutes nos affaires et il nous a laissé dans la case où on était sans rien, on était dans nos sacs de couchage. Et puis,
pendant combien de temps
ça a duré 24 heures. C'est-à-dire que pendant 24 heures on ne pouvait pas sortir de la case, on était gardés par des soldats. Tous ceux qui nous avaient accueillis, très bien accueillis, avaient disparu de la circulation. Donc il y avait le général et ses hommes qui nous menaçaient et qui nous avaient privés de tout. On ne pouvait pas appeler le journal, on ne pouvait donner aucun signe de personne. En plus on était au milieu de la brousse à 3 jours de route de N'Djamena, et la ville la plus proche qui est occupée par Wagner, les deux villes les plus proches sont à une journée de route sur des pistes, et puis on n'a surtout pas envie d'y aller parce que sinon on y va à ce moment-là, c'est pire que tout. Donc on n'avait pas d'alternative. La seule alternative, c'était d'espérer que ce général n'est pas vraiment, soit un type un peu farfelu et puis finalement qui nous laisse partir. Mais avec le soutien des autres.
Si je comprends bien François, à ce moment-là on s'attend à tout, c'est-à-dire que vous avez pensé très très fort à vos 3 enfants en bas âge, vous avez pensé à beaucoup de choses ?
Ouais, on pense à ça. Ouais, j'étais avec Véronique de Vigry, qui est une grande photographe, qui a fait preuve d'un énorme sang-froid, qui a eu beaucoup d'expérience dans ce domaine, même plus que moi. Et on a été vraiment une équipe. Dès ce moment-là, on a formé une équipe avec Véronique et on a répondu on essayait d'anticiper les réactions du général, qui, je pense, est un pervers narcissique et qui essayait de nous manipuler. Et puis, on a pensé à ceux qui sont otages. On a pensé à celui qui est otage, qui est Olivier Dubois, et qui est un journaliste à Libération, au Point, qui a été enlevé il y a 22 mois au Mali. Alors qu'il voulait interviewer les responsables du JNIM, du groupe islamiste malien. On a pensé à lui parce qu'il est seul, et ça fait 22 mois qu'il est seul. Et s'il subit ce que nous, on a subi pendant 5 jours, ce qui nous paraissait démesuré, mais ça n'a duré que 5 jours, si lui subit ça depuis 22 mois, c'est absolument atroce, donc on pense très fort à lui. Et on en a beaucoup parlé de ça, on a beaucoup parlé de lui, on a beaucoup parlé de ce qui nous arrivait, de la manière dont on pourrait anticiper. Et c'est un espèce de bouleversement psychologique, parce qu'en fait, toute votre personne vous êtes aliéné à la bonne volonté d'une seule personne. Vous êtes comme un chien avec son maître, en fait. Et en fait, il y a une capacité d'éradiquer la personnalité qui est faramineuse, parce que vous êtes à la main d'une personne qui fait ce qu'elle veut de vous. Et ça, c'était une expérience qui était extrêmement difficile. Et grâce à Véronique de Vigry, on l'a quand même surmontée avec du courage, quoi.
Ouais, grâce à beaucoup de monde, vous avez la possibilité d'être là,
ouais.
François.
Voilà.
On remercie tous ceux qui ont aidé. Et comment est-ce qu'on fait ensuite pour prendre sa plume et dire voilà, je vais écrire tout ce qui s'est passé.
Alors c'est un passage difficile, parce qu'il faut faire abstraction un peu quand même de ce qui nous est arrivé, parce que ce qui nous est arrivé, c'est une personne qui nous veut du mal, mais nous on vient pour parler des centaines de milliers de personnes qui sont là, et des dizaines et des dizaines de personnes à qui on a parlé et qui sont heureux de nous parler et qui ont beaucoup de reconnaissance pour le travail qu'on fait. Donc on pense d'abord à notre sujet, et c'est le sujet qu'on voulait faire, et c'est un sujet qu'on a réussi à faire, et qui est un sujet très difficile, parce que aller en Centrafrique pour témoigner des exactions de Wagner, c'est pas quelque chose d'anodin. Les journalistes russes l'ont fait. En 2018, ils ont été assassinés. Ils ont voulu enquêter sur les mines de Ndassima qui avaient été prises par les mercenaires de Wagner. Là où on était, on pensait qu'on était avec des rebelles qui tenaient leur territoire, et donc on pensait être à l'abri de Wagner. Mais Wagner n'était pas loin, et Wagner aurait pu venir. Et il y a 3 jours, ils ont attaqué la ville où on était. Et donc là, j'ai appris ce matin que le général Hamat Mounir, qui est le général qui s'est vraiment bien occupé de nous, a été blessé dans les combats hier. Donc la guerre se poursuit là-bas et les rebelles sont quand même seuls, il faut le dire.
Et vous parlez des femmes, vous parlez des familles, vous parlez de l'éducation, des jeunes filles. Vous avez quand même réussi, malgré tout ce que vous avez traversé, à restituer la vie là-bas. Parce qu'il y a une vie, elle n'est pas comme, comme partout. Et d'ailleurs, c'est un lieu commun, ce que je viens de dire, c'est complètement absurde. Mais il y a une vie là-bas qui est celle qu'elle est et vous avez su la restituer dans Paris Match.
Oui, et puis on a surtout compris quels étaient l'enjeu pour eux de subir ces mercenaires qui sont les nouveaux colons, en fait. C'est, en fait, les Russes ont une propagande anti-française en Afrique francophone qui consiste à dire que les Français sont des colons, ce que les Français ont été par le passé, mais ceux qui se comportent comme des colons aujourd'hui sont les Russes et ils le font de manière brutale, c'est-à-dire qu'ils prennent possession des ressources naturelles. Ils menacent les populations, ils s'en prennent directement aux civils, ils les tuent, ils les mutilent s'il le faut. Ils n'ont absolument aucun scrupule, ces mercenaires. Et en plus, ils entravent la force de sécurité de l'ONU. Ils empêchent les agents de l'ONU, les casques bleus, de faire leur métier. Et leur métier consiste à protéger les populations civiles. Donc on peut dire quand même que le groupe Wagner dans ce pays, en tout cas, pour ce qu'on en a vu, représente une menace pour les populations.
Il y a un aspect politique, Louis de Ragnel, dans ce que vient de dire François tout à l'heure, lorsque il a dit, et ça c'est vraiment l'histoire politique de la Ve République, avec notamment le dossier de la France-Afrique, qui n'est, on le sait très bien, toujours pas réglé. Lorsque des Blancs arrivent en Afrique, c'est forcément pour sauver les Africains. C'est forcément pour les aider à faire quelque chose. Il y a encore cette... ce narratif, cette littérature qui est là, qui est un fait que, voilà, sur place, on compte encore sur l'aide de la France.
Alors oui et non, parce qu'en fait ça dépend des pays. Globalement, la France qui était très présente, notamment en Centrafrique, puisque l'armée française a été présente pendant plusieurs années. Je pense également au Mali, l'armée française a quitté le Mali. Je pense au Burkina Faso, les forces spéciales françaises vont quitter le Burkina d'ici une vingtaine de jours. Et donc globalement, on a été pendant très longtemps vu comme effectivement des sauveurs, des bâtisseurs, des gens qui aidaient à stabiliser les États, qui notamment avec nos armées, on participait aussi à la sécurité de ces pays-là. Mais, et je trouve que c'est aussi tout l'intérêt du reportage de Café François de la Barre dans Paris Match, l'immixtion des Russes et de Wagner depuis plusieurs années, notamment en Afrique de l'Ouest, a complètement perturbé cette forme de tradition historique avec notre héritage colonial et qui fait que, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir, nous, la France, les armées françaises et même au niveau des décideurs politiques, c'est en fait la puissance de propagande, et du coup, en fait, Wagner a réussi à pénétrer les esprits de toute cette population africaine, et maintenant, en fait, il y a un sentiment anti-français qui est extrêmement fort.
Je ne pensais pas forcément au régime qui est là-bas, mais je pensais à ce groupuscule. Et ce que vous disiez, François Cercas, à un moment donné, il pensait que vous alliez l'aider lui. Alors, c'est-à-dire qu'il y a eu des dérives comme ça par le passé également.
Il y a une confusion parce que aussi pendant des années, jusqu'à maintenant, il y a une petite dizaine d'années, dès qu'il y avait un chef d'État africain qui était menacé dans l'ancien empire colonial français, les services de renseignement français notamment, ou les forces armées conventionnelles françaises, venaient aider ce chef d'État pour éviter qu'il soit renversé. Et donc, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on voit bien, il y a des chefs d'État, notamment en Afrique de l'Ouest, qui étaient soutenus par la France jusqu'à il y a peu, qui sont tombés tout seuls, et aucun service de renseignement français n'est venu les aider. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une bascule qui est en train de s'opérer, même si là, c'est plutôt un raisonnement à court terme, puisque à moyen et à long terme, moi, je suis convaincu que l'Afrique reste un défi extrêmement, enfin, sans doute le défi le plus important pour la France et pour l'Europe, bien plus que ce qui se passe à Taïwan, en mer de Chine et tout ça. Et que, inexorablement, la question quand même se posera du rôle de la France, même si on est en train de quitter progressivement ces régions-là. Je ne sais pas si on reviendra, si l'armée française sera appelée à l'aide, mais il y a à la fois un défi migratoire, sécuritaire, de lutte contre le terrorisme, qui fait qu'on n'a absolument pas réglé la question, entre guillemets, africaine, par rapport à l'histoire de France. Et je pense que voilà, à moyen terme, long terme, la France sera appelée d'une manière ou d'une autre à réinvestir ces zones-là. Je ne sais pas de quelle manière, mais voilà, le défi est devant nous.
Lomic Guillot, merci d'avoir été silencieux pendant tout ce temps, mais c'est vrai qu'on est tous un peu sous le coup de l'émotion et on est tellement content de revoir
c'est bouleversant,
François.
Ouais. Ouais. Oui, ce qu'on peut dire peut-être, c'est on parlait de Colomb pour une période. Ce qu'il faut dire par rapport à Wagner, sont pas vraiment des colons, ce sont plutôt des mafieux. C'est un système mafieux qui est en train de se mettre en place en Afrique parce que ce groupe arrive, déstabilise des pays, ensuite propose son aide pour rétablir l'ordre en échange d'un pourcentage sur les richesses du pays.
Tout le monde a vu le clip qui a été diffusé,
c'est absolument,
qui est absolument effrayant.
Incroyable, c'est 25% de ce que rapporte toutes les mines, le pétrole va dans la poche de Wagner pour financer son armée et sa propagande, notamment contre la France, dans un processus de déstabilisation dont on ne perçoit que des petits bouts ici aujourd'hui.
François de Labarre.
Non, ce qui était intéressant dans la région dans laquelle on était en Centrafrique, c'est qu'elle est tenue par des groupes rebelles qui s'appelaient Séléka. Donc, ce sont eux qui ont pris le pouvoir, qui ont renversé le gouvernement de Bozizé en 2013, ce qui a provoqué la guerre civile, qui a provoqué ensuite l'intervention de l'armée française dans le cadre de l'opération Sangari. Et eux sont, a priori, les plus anti-français des Centrafricains, puisqu'ils ont considéré que l'opération française Sangari était contre eux, contre ces groupes Séléka qui sont musulmans. Et que ce soit vrai ou pas, les Français disent que c'est faux. Peu importe, ce qui est intéressant dans cette démonstration, c'est de voir que ceux qui considéraient les Français comme leurs ennemis aujourd'hui en appellent à la France. Alors, moi, je ne pense pas, comme Louis, je ne sais pas si la France doit retourner en Afrique ou pas. Peut-être pas, en fait. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question. C'est extrêmement complexe. Ce qui est sûr, c'est que s'ils font appel à la France, c'est qu'il n'y a personne d'autre, à part les Russes. Et les Russes, ils n'en veulent pas, puisqu'ils ont compris ce que ça signifiait pour la majorité de la population. Donc, c'est un État mafieux. Alors, que ce soit un État mafieux ou des colons, de toute façon, c'est des gens qui sont là pour enrichir une minorité, s'enrichir et absolument bafouer les droits de l'homme pour le reste de la population. C'est la vaste majorité des populations.
François, je ne peux pas m'empêcher de dire que vous avez écrit votre reportage, mais que vous auriez voulu en dire beaucoup plus.
Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire et il y aura peut-être beaucoup... c'est un sujet qu'il va falloir suivre et ne pas voir ça aussi de manière trop franco-française en se disant on perd de l'influence ou pas. Je pense qu'il faut comprendre ce que sont en train de faire les Russes. Alors, ils ont ciblé l'Afrique francophone, ça fait longtemps qu'ils l'ont ciblé, ça fait longtemps qu'ils mènent cette propagande. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, on n'a pas vu venir. Maintenant, on voit de quoi ils sont capables là. Ça donne quand même une image de les configurations actuelles des conflits. Et pour conclure, je pourrais vous dire que ces combattants, ces milices rebelles nous ont dit, nous on combat aujourd'hui Wagner, mais demain on veut aller en Ukraine. Donc vous voyez, ils veulent mondialiser le conflit. Et pourquoi est-ce que cette zone est si sensible? Parce que c'est là où on était, c'est une zone tampon entre la Centrafrique et le Tchad, parce que c'est une zone tampon entre un pays à dominance aujourd'hui russe, qui est la Centrafrique, et le Tchad qui est dominé par la France, donc les États-Unis. Vous voyez le choc. Et donc là, on a une zone qui est un no man's land, où personne ne veut aller, où il y a quelques rebelles qui se battent contre des Russes et qui sont prêts à aller en Ukraine. Ça donne une idée quoi du risque de globalisation de ce conflit.
François Delabarre, grand reporter à Paris Match, article à lire absolument dans Match de cette semaine, les pirates de la brousse face à Wagner. Mais puisque vous êtes là, on va vous garder, si vous le voulez.
Merci.
Bien, pour commenter l'actualité politique
je suis pas sûr.
Et l'actualité internationale également. À tout de suite sur Europe 1.